Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 16 septembre.
Yoon Suk-yeol prévoit un sommet bilatéral à New York avec Fumio Kishida et Joe Biden. Le numéro 3 chinois reçu par le président de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État ordonne de renforcer la loi contre le harcèlement obsessionnel. Et enfin, la délégation du PPP dévoile l'identité de deux transfuges nord-coréens renvoyés.
Le président de la République effectuera la semaine prochaine le deuxième voyage officiel à l'étranger de son quinquennat. Yoon Suk-yeol s'envolera ce dimanche vers Londres afin d'assister aux funérailles de la reine Elisabeth II, avant de prendre ensuite la direction de New York, où s'ouvrira l'Assemblée générale des Nations unies. Son déplacement dans la ville américaine est chargé d'enjeux. Le chef de l'État sud-coréen s'exprimera pour la première fois à la tribune de l'ONU, et en marge de sa présence, il s'entretiendra en tête-à-tête avec respectivement Joe Biden et Fumio Kishida, selon la présidence sud-coréenne. La date exacte doit être déterminée plus tard. Il s'agira de la première rencontre à deux en 33 mois entre des dirigeants sud-coréens et japonais. La dernière en date remonte à décembre 2019, lorsque le président d'alors Moon Jae-in et l'ex-premier ministre Shinzo Abe ont eu une entrevue. Après New York, le numéro 1 sud-coréen se rendra au Canada, où il sera reçu par le premier ministre Justin Trudeau.
Le chef du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale chinoise, Li Sanshu, est arrivé hier à Séoul. Il est accompagné d'une délégation importante de 66 personnes. Il s'agit de la première visite en Corée du Sud en 7 ans, effectuée par un numéro 3 chinois. Aujourd'hui, Li s'est rendu d'abord à l'Assemblée nationale et il a été reçu par son homologue sud-coréen Kim Jin-pyo. À l'issue de leur entrevue, les deux hommes ont publié un communiqué de presse commun. Selon le texte, Kim a proposé à son interlocuteur d'organiser une réunion tripartite entre les présidents du Parlement de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon, et ce dernier lui a répondu qu'il y réfléchirait sérieusement. Par ailleurs, les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination afin de dynamiser les échanges de haut niveau. Kim et Lee étaient du même avis pour dire que les assemblées nationales des deux nations devraient créer un effet d'amorçage pour développer leurs relations bilatérales tournées vers l'avenir. Ils ont estimé que les échanges de contenus culturels devraient rendre plus proches les deux peuples. Par ailleurs, les deux chefs ont décidé de réexaminer et renforcer le dispositif de communication et de coopération dans le but d'assurer une gestion stable des chaînes d'approvisionnement et d'engager des négociations supplémentaires sur l'accord de libre-échange Séoul-Pékin afin d'ouvrir davantage le marché du service et de la culture, sans oublier de renforcer la collaboration dans le domaine de l'environnement, comme par exemple pour lutter contre les particules fines.
La société sud-coréenne est sous le choc après avoir appris le meurtre sauvage commis dans une station de métro de Séoul. Mercredi vers 21h, une employée du métro âgée de 28 ans a été assassinée par son ancien collègue pendant qu'elle effectuait sa ronde dans les toilettes de la station Shindang. L'homme trentenaire a commis cet acte horrible alors qu'il risquait le lendemain d'être condamné par le tribunal en première instance pour avoir harcelé la victime sous forme de stalking. Il s'agit d'une forme de harcèlement qui fait référence à une attention obsessive et très intrusive. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre dans les médias et la loi contre le stalking a été pointée du doigt en raison de ses manquements. Le président de la République a ainsi ordonné ce matin au ministère de la Justice de compléter le dispositif actuel visant à protéger les victimes.
Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. L'administration de Yoon Suk-yeol prend l'initiative de s'offrir un nouveau bâtiment destiné à accueillir ses invités d'honneur et à y organiser des événements. Cette information a été dévoilée par un député du Minju, la première force d'opposition qui a reçu le projet du budget 2023 de la Fondation pour la gestion des biens de l'État. D'après le projet, la construction du nouveau pavillon d'hôtes présidentiel devrait s'étaler sur 2 ans, à savoir de 2023 à 2024, pour un montant total de 60 62,94 millions d'euros. Dans le texte, le ministère des Finances a justifié cette démarche en soulignant qu'il serait nécessaire d'installer un bâtiment annexe à proximité du bureau présidentiel de Yongsan afin d'assurer une gestion stable des affaires de l'État. Pour rappel, l'administration de Yoon ne peut plus utiliser l'ancienne maison d'eau de la Chongwade suite à son transfert à Yongsan. Le bureau présidentiel actuel avait déclaré que son déplacement dans le centre de Séoul ne coûterait que 35,5 millions d'euros. Pour la construction d'une nouvelle maison d'hôte, l'enveloppe est estimée presque au double du projet initial, ce qui risque de provoquer une nouvelle polémique.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche a réaffirmé que Washington s'attelait à assurer Séoul de sa dissuasion élargie face à la menace nucléaire de Pyongyang. D'après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Jake Sullivan a fait cette confirmation jeudi lors d'une rencontre avec le premier vice-ministre des Affaires étrangères Cho Yun-dong et le vice-ministre de la Défense Shin Bom-chol en visite aux États-Unis. Sullivan s'est également félicité de la reprise et la réunion du groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie prévue vendredi à Washington, ainsi que de la visite de Chine à la base aérienne d'Andrews dans le Maryland, qui abrite notamment les bombardiers stratégiques B-52 et les armes atomiques de faible puissance qui seront déployées dans la péninsule coréenne en cas d'urgence.
La coalition parlementaire internationale pour les réfugiés nord-coréens et les droits de l'homme a tenu son assemblée générale hier à Washington. Y a participé une délégation sud-coréenne composée de quelques membres du Parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation présidentielle conservatrice. À la veille de ce rendez-vous, ce groupe d'officiels avait publié un communiqué sur place pour appeler la Corée du Nord à préciser si ses deux transfuges rapatriés de force en 2019 sont morts ou en vie. Dans la foulée, elle a dévoilé leur identité. Un Woo, né en 1997, et un certain Kim, né un an plus tôt, tous deux originaires de la ville de Changjin. La délégation du PPP a expliqué sa démarche. Elle voulait que la communauté internationale en parle ouvertement d'une seule voix, afin que les autorités nord-coréennes changent leur attitude. Pour rappel, il s'agit de deux transfuges retrouvés en mer de l'Est en novembre 2019. Le gouvernement sud-coréen d'alors les a expulsés via Panmunjom, malgré leur souhait de rester au sud, car ils étaient accusés par Pyongyang d'avoir tué leurs 16 collègues à bord de leur navire. Par ailleurs, le député du PPP, Ha Tae-kyung, du voyage dans la capitale américaine, a fait savoir hier à des journalistes que lui et ses collègues se sont entretenus avec le sous-secrétaire adjoint du département de l'État chargé de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, Scott Busby.
Actuellement, le Musée national de Chine, situé à Pékin, organise une exposition intitulée « Métaux de bon augure d'Orient ». Or, il avait omis deux anciens royaumes prospères du pays du matin clair, à savoir Koguryo et Palhae, du tableau chronologique sur la Corée installé pour l'exposition. Cette manœuvre, révélée au grand jour mercredi, a provoqué un tollé général à Séoul. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a protesté contre cet oubli intentionnel auprès de Pékin. Ce dernier a alors transmis hier sa décision de retirer le tableau chronologique controversé, tout en précisant que cet incident n'avait été dicté par aucune arrière-pensée. Il a ajouté que les deux pays ont décidé de promouvoir les échanges entre leurs musées afin qu'un tel cas ne se reproduise plus. De l'avis de nombreux experts, il s'agissait d'une nouvelle tentative de l'Empire du Milieu pour incorporer Koguryo et Palhae dans sa propre histoire.
Et pour terminer, le gouvernement sud-coréen se prépare à mener son combat sanitaire sur deux fronts face à une éventuelle twindémique, à savoir l'épidémie simultanée de Covid-19 et d'influenza. Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 51 874 individus supplémentaires infectés au coronavirus, dont 348 importés, soit une baisse d'environ 20 000 nouveaux cas par rapport à hier, ce qui porte le nombre total à plus de 24,3 millions depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, l'agence pour le contrôle et la prévention des maladies, la KDCA, a déclenché aujourd'hui à l'échelle nationale l'alerte vigilance de niveau 2 pour la grippe saisonnière, soit une première en 3 ans. Il est à noter que l'alerte est activée plus tôt que d'habitude cette année. En effet, elle a été émise au mois de décembre en 2016 et 2017 et en novembre en 2018 et en 2019. Une précision, en redoutant une recrudescence simultanée des deux épidémies, les autorités ont récemment revu à la hausse le seuil nécessaire pour activer l'alerte de niveau 2, à savoir 4,9 patients confirmés pour 1000 cas suspects de la grippe saisonnière contre 5,8 autrefois. Selon la KDCA, cet indice a atteint 5,1 pendant la semaine du 4 au 10 septembre dernier. Les autorités ont ainsi demandé aux établissements scolaires et aux EHPAD de renforcer leur prévention sanitaire contre l'influenza. Par ailleurs, elles lanceront la campagne de vaccination contre cette épidémie dès mercredi prochain. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oh Ha-young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et très bon week-end sur nos ondes.